Quelles sont les difficultés de la prise en charge de la multirésistance? Finalement, elles sont nombreuses. Tout d'abord, nous l'avons dit tout à l'heure, la tuberculose multirésistante reste sous-diagnostiquée. Elle nécessite aussi maintenant des tests de diagnostic rapide pour instaurer rapidement une prise en charge thérapeutique. Elle nécessite un traitement qui est long, toxique, coûteux, ce qui est à l'origine d'une mauvaise compliance et à l'origine de nombreux échecs thérapeutiques. C'est une maladie lourde avec une mortalité et une morbidité élevées. Et se pose le problème actuellement, et on commence à en parler, de la prise en charge des contacts des patients porteurs d'une tuberculose multirésistante. Comment faire la prévention, discuter l'isolement prolongé de ces patients multirésistants et enfin ne pas oublier de protéger le personnel de santé qui s'occupe de ces patients multirésistants. Donc nous l'avons dit, c'est une maladie encore sous-diagnostiquée. Nous l'avons vu tout à l'heure, environ plus de, sur les 500 000 patients qui développeraient une tuberculose multirésistante, uniquement 300 000 sont détectés avoir une tuberculose multirésistante et surtout pratiquement la moitié, donc 150 000, sont diagnostiqués et notifiés et malheureusement environ les trois quarts sont effectivement traités. Vous voyez que les autres 40 000 patients, malheureusement, donc porteurs d'une tuberculose multirésistante, sont encore dans l'attente de leur traitement. Donc ce n'est pas toujours facile de prendre en charge ces patients multirésistants. Et comme vous le voyez sur la cohorte des patients tuberculeux multirésistants en 2011, vous voyez que pratiquement moins de la moitié des patients sont effectivement déclarés guéris. Il y a beaucoup de mortalité, donc 16%, et 24% n'ont pas encore terminé leur traitement. Et enfin, pratiquement 12% ne sont pas guéris malgré le fait qu'ils reçoivent le traitement. Et vous voyez que pour la tuberculose ultra résistante, c'est encore plus grave puisque uniquement le taux de succès chez ces patients porteurs d'une XDR, il n'est que de 22%. Donc nous avons dit aussi que c'est une maladie coûteuse. Vous voyez ici sur cette plaque pour l'ensemble du coût des patients donc traités pour tuberculose en Afrique du Sud. Et vous voyez que le coût de la tuberculose multirésistante associé au coût de la tuberculose ultra-résistante est pratiquement, représente 45%, pratiquement 50% de l'ensemble du coût global de la prise en charge de la tuberculose dans ce pays. Et évidemment, la prise en charge de ces tuberculeux est basée sur les différentes guidelines qui ont été publiées récemment par l'OMS. Et ces guidelines reposent essentiellement sur une stratégie de prise en charge de la tuberculose multirésistante. Il ne faut pas oublier qu'il y a une stratégie, tout d'abord une action collective, et une deuxième stratégie, c'est la prise en charge individuelle des patients tuberculeux résistants. La stratégie collective, évidemment, nous l'avons déjà dit, c'est de prévenir l'émergence de tout nouveau cas de tuberculose multirésistante en renforçant le programme national de lutte contre la tuberculose dans les différents pays et avec, deuxième étape, des mesures spécifiques pour la prise en charge des patients tuberculeux multirésistants. Donc, comment prévenir l'émergence de ces nouveaux cas de tuberculose? Évidemment, là, c'est l'engagement politique à fournir tous les médicaments de seconde ligne et d'assurer un traitement court standard pour les tuberculoses ABK sensibles. Et deuxièmement, pour assurer aussi des mesures spécifiques pour les formes de tuberculose multirésistante, c'est-à-dire et surtout avoir un stock de réserve de ces médicaments de seconde ligne avec évidemment un soutien psychosocial qui est très important pour ces patients et une prise en charge donc spécifique de ces patients porteurs de tuberculose multirésistante, c'est-à-dire, nous l'avons dit aussi, qu'il faut vraiment hospitaliser chez ces patients dans des milieux vraiment spécialisés et qui sont habitués à la prise en charge de ces patients MDR pour superviser la prise de traitement, surtout pour l'éducation de ces patients. Et il ne faudra pas hésiter à fractionner les médicaments pendant la journée, surtout quand il y a des effets secondaires graves, tels que les vomissements ou les douleurs épigastriques. Et on conseille actuellement aux patients de prendre le traitement après le repas, à l'inverse des patients qui sont traités pour les tuberculoses ABK sensibles. Et surtout, il faudra prévenir et prendre en charge correctement les effets indésirables qui, comme vous le voyez, sont très nombreux et multiples. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment éduquer ces patients pour dépister à temps ces événements indésirables, tout en sachant que certains patients présentent plusieurs événements indésirables en même temps. Ils sont plutôt focalisés sur un seul événement indésirable, tel que par exemple les vomissements, qu'ils oublient les autres événements indésirables, tels qu'une neuropathie ou un état dépressif. Donc vraiment, il faut bien les entourer. Et je vous présente ici la prévalence des différents effets secondaires observés chez plus de 800 patients. Donc vous voyez qu'ils sont très nombreux. Les plus fréquents, ce sont les troubles digestifs, mais il ne faut pas oublier aussi la perte de l'audition, les troubles psychiatriques et les troubles des neuropathies périphériques qui sont essentiellement dues à la cyclosérine. C'est pour cela qu'il faut toujours administrer, en plus du traitement antituberculeux, de la pyridoxine et un inhibiteur de la pompe à protons pour prévenir suffisamment à temps ces différents événements indésirables. Il ne faut pas aussi oublier que cette prise en charge doit aussi se baser sur un support nutritionnel, sur le traitement des autres comorbidités, ne pas aussi ajouter d'autres thérapeutiques, l'oxygénothérapie et la corticothérapie dans des conditions particulières, et que ça peut améliorer notablement la fonction respiratoire de ces patients. Nous l'avons dit, un soutien psychologique est important, et surtout une aide matérielle qui peut améliorer la compliance de ces patients. Et en Tunisie, nos patients bénéficient d'une aide matérielle de $200 par mois qui est grâce au soutien du Global Fund. Enfin, il faudra bien surveiller la réponse thérapeutique. La meilleure surveillance, c'est la clinique et surtout le poids. Quand le tubercule prend du poids, c'est qu'il s'améliore. Mais il faut toujours surveiller la tolérance de des différents médicaments, prendre en charge les effets secondaires et pratiquer plusieurs bilans biologiques. Et vous voyez qu'ils sont nombreux parce que justement, ces médicaments de seconde ligne sont assez toxiques, sans oublier de pratiquer une audiométrie et un électrocardiogramme, surtout si on utilise la bétaquiline ou le délanamide. Donc, tout ceci a amené les experts à penser à raccourcir le traitement et la prise en charge donc, de ces patients multirésistants. Et nous l'avons dit, donc, plusieurs régimes thérapeutiques ont montré leur efficacité, tels que le régime de Bangladesh de 9 mois, l'autre régime actuellement donc, au Cameroun, mené au Cameroun, est actuellement publié, donc qui montre une efficacité de ces régimes courts de 12 mois. Et donc, pourquoi pas un régime court qui sera administré chez certains patients assez sélectionnés, avec un minimum de résistance secondaire aux drogues de seconde ligne, avec éventuellement une baisse de la prévalence de l'infection HIV. Et tous ces résultats nous amènent à nous poser plusieurs questions. Finalement, pourquoi jusqu'à ce jour on maintient le régime de 20 mois? Deuxièmement, on est en train actuellement de découvrir une résistance peut-être de la pyrazinamide associée aux souches résistantes à la rifampicine. Et c'est pour cela, donc quand on utilise des régimes qui incluent la clofamizine et l'isoniazide à forte dose, est-ce que ça va avoir un impact? Et surtout, donc il faudra peut-être se baser sur les nouvelles drogues thérapeutiques telles que la bétoquiline, le délamanide ou encore le linezolide, qui pourraient peut-être éventuellement améliorer peut-être le pronostic de ces malades. Et vous voyez que pour le délanamide, donc, on voit qu'il y a une bonne évolution, une bonne efficacité sous traitement, donc avec 14% de guérison lorsque la délanamide est administrée plus de 6 mois. De même pour la bédaquiline, avec plus de pratiquement 60% des patients qui sont guéris. Et enfin, donc, actuellement, les experts de l'OMS recommandent la bétaquiline et la délanamide, surtout chez les patients porteurs d'une tuberculose multirésistante, avec d'autres des facteurs de risque associés à une mauvaise évolution, lorsqu'il existe une résistance au fluoroquinolone, lorsqu'il existe aussi une résistance aussi bien donc pour les classes de groupe 2, tels que les agents injectables, mais aussi les polypeptides, quand il y a des effets secondaires graves aux médicaments de seconde ligne, ou lorsqu'il faudra utiliser plusieurs drogues du groupe 4, évidemment, une indication aussi de ces deux nouvelles drogues, c'est la tuberculose ultra-résistante. Est-ce que la chirurgie a une place dans la tuberculose multirésistante? Oui, mais elle ne constitue qu'un traitement additionnelle au traitement médical, elle a une excellente indication, surtout dans les tuberculoses ultra-résistantes, à condition que les lésions soient localisées et que la fonction cardio-respiratoire est correcte. Et comme vous voyez sur cette plaque, les résultats de l'efficacité de la chirurgie, qui est variable donc selon les séries, mais elle peut varier de 18%, voire jusqu'à 75% selon les séries. Qu'en est-il de la prise en charge des contacts des patients multirésistants? Si le patient contacte à une tuberculose active, évidemment, il faut démarrer rapidement et rechercher rapidement le test par le test rapide de la résistance pour confirmer la tuberculose résistante. Mais dans tous les cas, il faudra commencer par un traitement empirique. Par contre, le problème se pose pour la prise en charge des enfants en contact des patients tuberculeux multirésistants. Et comme vous le savez, le diagnostic de la tuberculose multirésistante chez l'enfant est difficile. On est obligé de faire plusieurs examens complémentaires, quitte à faire des prélèvements invasifs, tels que par en dehors de l'expectoration induite, une fibro-aspiration bronchique, pour confirmer formellement cette tuberculose multirésistante. Par contre, le problème se pose pour la prise en charge des infections latentes. Actuellement, il y a peu d'études qui ont été dédiées à cette forme de prise en charge de cette tuberculose latente, tout en sachant que d'après les recommandations de l'OMS, actuellement, on ne recommande pas de chimioprophylaxie, c'est le sujet contact. D'autant plus que, comme vous voyez dans cette étude restante, donc menée chez plus de 700 patients contact de patients tuberculeux multirésistants, dans le dépistage initial, sur les 12 cas qui avaient une tuberculose active, uniquement 8 cas avaient une tuberculose multirésistante. Et par la suite, le dépistage qui a été pratiqué 2 ans après, sur les 17 cas dépistés, 3 cas avaient une tuberculose multirésistante. Donc finalement, les sujets contact d'un patient qui a une tuberculose multirésistante ne développent pas obligatoirement une tuberculose à bacille résistant. Donc finalement, la prévention de la tuberculose, nous l'avons déjà vu, repose sur essentiellement 4 axes principaux. C'est surtout la prévention du développement de nouveaux cas de tuberculose multirésistante en renforçant le programme de prise en charge des nouveaux cas de tuberculose ABK sensible, dépister rapidement ces formes, prévenir la transmission de la tuberculose et essentiellement donc il faut un engagement politique, un soutien du gouvernement pour prendre en charge correctement ces patients. Et vous voyez ici que quand on traite correctement une tuberculose ABK sensible, le taux de succès du traitement de 6 mois avoisine les 90%. Et donc finalement donc il faudra essayer diagnostiquer rapidement ces formes de tuberculose résistante. Donc nous l'avons dit par les techniques de diagnostic rapide qu'il ne faut pas oublier quand même sont coûteuses, donc pas uniquement l'appareillage, même la maintenance. Donc ça peut poser problème dans certains pays donc, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour faire le diagnostic rapide. Ne pas oublier aussi la prévention de la transmission de la tuberculose résistante et du contrôle de l'infection. Donc il faut vraiment hospitaliser ces patients, les isoler dans des chambres individuelles avec un renouvellement permanent de l'air dans les chambres. Ne pas oublier aussi de protéger les malades par des masques de protection chirurgicale, mais aussi le personnel de santé par des masques de haute protection respiratoire, le masque FFP2. Et finalement, je terminerai par cette phrase de l'OMS pour un bon programme de contrôle de la tuberculose. La priorité n'est pas de prendre en charge les cas de tuberculose multirésistante, mais surtout de prévenir leur apparition. Je vous remercie. Merci.